Le philosophe et la vieillesse. On a tort de permettre au soir de juger le jour, car trop souvent alors la fatigue se fait justicière de la force, du succès et de la bonne volonté. Et de même s'imposerait la plus grande précaution en ce qui concerne la vieillesse et son jugement de la vie, vu que la vieillesse, tout comme le soir, aime à vêtir le déguisement d'une moralité nouvelle et charmante, et qu'elle sait humilier le jour par les rougeurs du couchant, par le crépuscule, le calme paisible ou plein de désir. La piété que nous apportons au vieillard, surtout lorsque ce vieillard est un vieux penseur et un vieux sage, nous rend facilement aveugle à l'égard du vieillissement de son esprit. Et il est toujours nécessaire de mettre au jour les symptômes d'un tel vieillissement et d'une telle lassitude, c'est-à-dire de montrer le phénomène physiologique qui se cache derrière le jugement et le préjugé moral, nécessaire de ne pas être dupe de la piété et de ne pas porter préjudice à la connaissance. Car il n'est pas rare que l'illusion d'une grande rénovation morale et d'une régénération s'empare du vieillard. Basé sur ce sentiment, celui-ci émet, sur l'œuvre et le développement de sa vie, des jugements qui voudraient faire croire que ce n'est qu'à partir de maintenant qu'il est devenu clairvoyant. Et pourtant, l'aspiratrice de ce bien-être et de ce jugement plein d'assurance est, non la sagesse, mais la fatigue. Le signe le plus dangereux de cette fatigue est certainement la croyance au génie qui ne s'empare généralement des grands et des demi-grands hommes de penser qu'à cette limite de la vie. La croyance à une situation exceptionnelle et à des droits exceptionnels. Le penseur ainsi visité par le génie se croit dès lors permis de prendre les choses à la légère et de décréter plus qu'il ne démontre. Mais il est probable que c'est précisément le besoin d'allègement qu'éprouve la fatigue de l'esprit qui est la principale source de cette croyance. Il la préside dans le temps, bien qu'il en paraisse autrement. On va en outre jouir à ce moment des résultats de sa pensée, conformément aux besoins de jouissance communs à tous les gens fatigués et à tous les vieillards. Au lieu d'examiner à nouveau ses résultats et de recommencer à les semer, on a besoin de les apprêter à un goût nouveau, pour se les rendre supportables, et leur enlever leur sécheresse, leur froideur et leur manque de saveur. C'est ce qui fait que le vieux penseur s'élève en apparence au-dessus de l'œuvre de sa vie, mais qu'en réalité il la gâte par l'exaltation, les douceurs, les épices, la brume poétique et les lumières mystiques qui l'y mêlent. C'est ce qui finit par arriver à Platon. C'est ce qui finit aussi par arriver à ce grand et loyal Français, à qui ni les Allemands ni les Anglais de ce siècle ne peuvent opposer personne. Personne qui, comme lui, ait saisi et terrassé la science sévère, Auguste Comte. Un troisième symptôme de la fatigue, cette ambition qui agitait la poitrine du grand penseur lorsqu'il était jeune et qui, alors, ne trouvait à se satisfaire nulle part. Cette ambition est devenue vieille, elle aussi. Comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, elle s'empare des moyens de satisfaction les plus grossiers et les plus proches. C'est-à-dire de ceux des natures actives, dominatrices, violentes, conquérantes. Dès lors, il veut fonder des institutions qui portent son nom au lieu de fonder les édifices d'idées. Que sont pour lui maintenant les victoires et les honneurs éthérés dans le royaume des démonstrations et des réfutations? Que lui est une immortalité par des livres, une jubilation frissonnante dans l'âme d'un lecteur? L'institution, par contre, est un temple, c'est ce qu'il sait bien, et un temple de pierre, un temple durable, qui fait vivre son Dieu avec plus de certitude que les holocaustes des âmes tendres et rares. Peut-être lui arrive-t-il aussi, vers cette époque, de trouver pour la première fois cet amour qui s'adresse plutôt à un Dieu qu'à un homme? Alors, tout son être s'adoucit et s'amollit sous les rayons d'un pareil soleil tel un fruit à l'automne. Il devient aussi plus divin et plus beau, le grand vieillard, et c'est malgré tout l'âge et la fatigue qui lui permettent de mûrir de la sorte, de devenir silencieux et de se reposer dans la lumineuse adulation d'une femme. C'en est fait maintenant de son ancien désir altier de disciple véritable, désir supérieur même à son propre moi, de disciple qui serait le véritable prolongement de sa pensée, c'est-à-dire des adversaires. Ce désir avait sa source dans la force non affaiblie, dans la fierté consciente et la certitude de pouvoir devenir lui aussi, à tout moment, l'adversaire et l'ennemi irréconciliable de sa propre doctrine. Maintenant, il lui faut des partisans déclarés, des camarades sans scrupules, des troupes auxiliaires, des héros, une suite pompeuse. Maintenant, il n'est plus capable de supporter l'isolement terrible où vit tout esprit qui prend son vol en avant et avant les autres. Il s'entoure dès lors d'objets de vénération, de communion, d'attendrissement et d'amour. Il veut enfin jouir des mêmes privilèges que tous les hommes religieux et célèbre ce qu'il vénère dans la communauté. Il ira même jusqu'à inventer une religion pour avoir la communauté. C'est ainsi que vit le sage vieillard, et il finit par tomber imperceptiblement dans un voisinage si affligeant des excès cléricaux et poétiques que l'on ose à peine se souvenir de sa jeunesse sage et sévère, de sa rigide moralité cérébrale d'alors, de sa crainte véritablement virile des idées extravagantes et des divagations. lorsqu'il se comparait autrefois avec d'autres penseurs plus anciens, c'était pour mesurer sérieusement sa faiblesse avec leur force et pour devenir plus froid et plus libre à l'égard de lui-même. Maintenant, il ne se livre plus à cette comparaison que pour s'enivrer de sa propre folie. Autrefois, il songeait avec confiance aux penseurs à venir. Il se voyait même disparaître avec une extrême joie dans leur lumière plus pleine. Maintenant, il est tourmenté par l'idée de ne pas pouvoir être le dernier penseur. Il songe aux moyens d'imposer aux hommes, avec l'héritage qu'il leur laisse, une restriction de la pensée souveraine. Il y craint et il calomnie la fierté et la soif de liberté des esprits individuels. Après lui, personne ne doit plus laisser gouverner librement son intellect. Il veut lui-même demeurer à jamais la digue où déferlent sans cesse les flots de la pensée. Ce sont là ses désirs souvent secrets et parfois avoués. Le fait brutal qui apparaît derrière de pareils désirs, c'est qu'il s'est arrêté lui-même devant sa doctrine. C'est qu'avec elle, il s'est dressé une borne, jusqu'ici et pas plus loin. En se canonisant lui-même, il s'est dressé son propre certificat de décès. À partir de ce moment, son esprit n'a plus le droit de se développer. Le temps est passé pour lui, l'aiguille s'arrête. Lorsqu'un grand penseur veut faire de lui-même une institution, liant l'humanité de l'avenir, on peut admettre avec certitude qu'il est allé au-delà du sommet de sa force, qu'il est très fatigué et tout près de son déclin.